Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, Gaël Sliman, le président d'Odoxa, sondage du mois avec AJP Challenge BFM Business, on y va dans un instant, et Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, et évidemment BFM Business présente à Aix-en-Provence, à compter de demain. La matinale de Laure Clausier sera en direct depuis Aix, et je lui succéderai à 9h avec un plateau 100% Cercle des économistes. Il y aura Patrick Artus, Emmanuel Auriol et Pierre Jacquet avec moi jusqu'à 10h pour l'émission que vous êtes en train d'écouter. Cette question, vous me l'aviez soufflée par SMS, la France peut-elle continuer sans majorité stable, Jean-Pierre Petit ? On ne va pas avoir le choix ?
Ben oui.
On va pas avoir le choix.
On va pas avoir le choix. Ben voilà. Faut pas oublier que finalement, on peut très bien vivre là-dedans. Il faut une motion de censure pour changer de gouvernement. Et on peut changer de gouvernement. On peut changer de gouvernement. Et je reviens sur la Ve République, mais les deux présidents de la République, le seul pouvoir qu'ils avaient, Vincent Auriol et René Coty, c'était justement de négocier, d'aller voir les types, compter un par un, parce que, en fait, ce qui était terrible, c'est que les gouvernements, les ministres, ils n'avaient pas peur parce qu'il n'y avait pas l'incompatibilité à l'époque. Donc, quand ils sautaient, ils retrouvaient leur job de député. Voilà. Mais c'était des négociations permanentes et ils comptaient le nombre de députés qu'ils allaient avoir. C'est tout.
C'est valable sous la Ve, ça. Hein. Moi, je me souviens
quand t'as majorité absolue.
Non, quand t'as la majorité. Mais je me souviens, il était responsable des relations avec le Parlement de Sarkozy, je ne sais plus comment il s'appelle. Et sur certains textes de loi, notamment révision constitutionnelle.
Ah bah oui.
Il m'avait raconté, parce qu'il venait beaucoup dans l'émission, on avait un peu sympathisé. Il m'avait raconté la vraie vie avant de réunir les élus au Congrès. Il me disait, on se tutoyait, il me disait, écoute, on a fait la liste des mecs qu'il fallait qu'on appelle nous directement, personnellement, pour les convaincre.
Ah, bien sûr.
Et on s'était planté sur les marches à Versailles, on guettait l'arrivée des gars un peu tangents, et on se précipitait vers eux pour leur serrer la main avec les yeux dans les yeux. T'as bien compris, hein? T'as bien compris.
Mais c'est toujours été comme ça.
C'est vraiment ça.
Même sous la Troisième République, c'était comme ça, d'ailleurs. Hein. Et voilà, il y a juste un problème, c'est la loi de finances, c'est tout. Et la loi de finances, tu le résous par deux choses, le 49-3.
Ouais.
Le 49-3, faut jamais oublier que dans la philosophie pour De Gaulle et Debré, c'était de dire qu'il y a une présomption de majorité, a priori. Simplement, c'est à l'opposition de montrer qu'elle est majoritaire. Et donc, c'est à elle de déposer la motion de censure. Si ça marche pas au 49-3, c'est-à-dire que s'il y a motion de censure, à ce moment-là, on passe à l'article 47.
L'article 47, c'est juste en un mot, l'article qui permet, en fait, vous prenez le budget de l'année écoulée.
Non, mais c'était le gouvernement qui prend des ordonnances, les ordonnances spéciales de l'article 47. Il faut l'autorisation du Parlement.
Non, mais ça veut dire que si
il n'y a pas d'habilitation.
Ah, non. Comme toutes les ordonnances.
Ça, c'est pas justement l'ordonance sans habilitation, celle-là.
C'est l'ordonance. C'est l'article 16.
L'article 16.
Mais l'ordonnance de l'article 38, il faut une habilitation. L'article 47,
non, mais le 49.3 suppose vraiment qu'on ait une majorité. Si un gouvernement sans majorité, surtout dans la configuration actuelle, se présente, c'est très simple. Le lendemain, il y a une motion de censure qui est votée par RN, par le Rassemblement National, et elle est à France Insoumise. Et donc, c'est fini, étant donné toutes les projections que l'on a, le gouvernement tombe ipso facto.
Sondage, Odoxa, AJP, Challenge BFM Business avec vous, Gaël Sliman. Qu'est-ce que vous nous racontez ce mois-ci ?
Je vous raconte d'abord que les Français ont le moral dans les chaussettes, parce que c'est un vrai paradoxe, ça c'est aussi une première. Normalement, soit vous avez des élections chiantes qui n'intéressent personne, et donc les gens vous disent
c'est
ces élections m'intéressent pas, soit vous avez des élections qui intéressent, mais d'habitude, quand des élections intéressent, ça déclenche de l'enthousiasme. On a un espoir, on espère l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, un grand changement, où on a un peu peur de l'arrivée de la gauche et on veut soutenir Giscard, où vous avez des élections comme ça, où vous avez senti une poussée des différents camps, surtout sur de l'enthousiasme. Et puis, vous avez cette élection-là. Cette élection-là, un niveau d'intérêt qui est équivalent à celui d'une présidentielle. Plus de 80% des Français disent s'intéresser à ces élections législatives. Mais un niveau d'angoisse qui est bien plus fort que l'enthousiasme. Par exemple, dans notre baromètre éco, donc plongée du moral économique, parce que les Français nous disent, sur chacune des principales formations susceptibles de l'emporter, le NFP, le Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National et la majorité présidentielle Emmanuel Macron, s'il gagne ces élections, ça aura des conséquences bien plus négatives que positives sur la situation économique du pays. À chaque fois, on a une majorité de Français qui pensent que les conséquences seront plus négatives que positives pour chacun des partis. Elles sont perçues comme étant...
Et l'écart est grand en plus. Hein.
Et l'écart est très grand. Alors, celui qui s'en sort le moins mal, c'est logique, c'est le favori actuel, au moins pour une majorité relative, c'est le Rassemblement National. La part de gens qui disent que les conséquences seront négatives est moins forte pour le RN que pour la majorité présidentielle ou pour la gauche. Mais quand même, c'est majoritairement négatif. Et alors, à la limite, on pourrait dire, le pays, c'est terrible, mais ce qui compte, c'est moi-même. Quand on interroge les gens sur eux-mêmes, on a aussi une très large majorité de Français qui nous disent, pour chacun des partis, si jamais ils gagnent, ça va être une catastrophe pour ma propre situation économique personnelle. Pour le RN, on est à 55 contre 41. Pour la majorité présidentielle, à 58-36. Et pour la gauche, on est à 63-34. 63 négatifs, 34 positifs. Donc, les gens voient l'arrivée au pouvoir ou le retour au pouvoir de l'une de ces formations comme une catastrophe macro et micro. Ce qui fait que la situation qui se dessine aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais ça il y a un instant, d'une majorité impossible à constituer, d'un statu quo étrange, d'un RN avec 250 députés par exemple, et d'une gauche sous les 200 et d'une majorité présidentielle à 120 ou 130, cette situation-là qui rend les choses très compliquées à bouger, bah finalement, ça rassure plutôt les Français, ça va plutôt dans le sens de ce qui les inquiéterait le moins.
Mais c'est vrai ce que vous dites sur cette élection passionne, mais c'est pas l'enthousiasme qui domine.
C'est l'inquiétude.
Et alors, je me rends compte quand je vois les réactions des auditeurs sur mon compte Twitter, et principalement ceux qui sont des fidèles de cette émission, qui m'écrivent souvent le ton est plus le même. C'est tendu.
Ah oui.
C'est stressant.
Il y a de la gravité. Voilà. Il y a de la gravité et du stress.
Philippe Trésor.
Est-ce que moi je trouve cette enquête excellente. Non, elle révèle des choses. Et surtout, vous ne l'avez pas présentée. C'est très bien de dire les positifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire l'écart positif-négatif.
Oui, l'indice.
Et ce dont vous vous apercevez, c'est que cet écart, il augmente quand on passe de la question « Pensez-vous que les conséquences économiques seront positives ou négatives ?» Ils disent majoritairement qu'elles sont négatives. Il y a un écart qui tourne autour de...
Entre 17 et 37.
Moins 17 à moins 37. Et quand vous passez à votre situation personnelle, alors là, les gens deviennent extrêmement négatifs. L'écart entre ceux qui pensent que c'est positif et l'écart entre ceux qui pensent négatif est extrêmement élevé. Et il est le plus élevé pour NFP, où là, ça atteint à peu près en écart
moins
30.
29, ouais.
moins 30. Et donc, il y a une vraie angoisse. C'est-à-dire, les gens disent que ce sera bon pour l'économie, mais pas bon pour moi. Ce qui veut dire que ça sera bon pour les autres.
Mais ça fait pas rêver. Hein.
Voilà, ça fait pas rêver.
Pas rêver.
Et là, c'est quand même un cas assez rare, je pense, ouais. De configuration qui doit interroger hein, sur le donc sur
la
sur l'instabilité à partir de là de l'électorat lui-même.
La clarification d'Emmanuel oui. Macron n'est pas du tout dans les
non non,
hein.
Non non. Et puis il y a
rien de clair
de Nicolas au début qui pose problème hein, c'est qu'il y a là, il y a un déficit démocratique important, comme on avait sous la 4ème République, souvent, parce que je citais le Parti communiste.
Vous voulez un déficit démocratique, c'est le fait d'arriver à une assemblée qui n'aura rien à voir avec.
Un gouvernement qui n'a rien à voir.
Bah voilà.
Ce que j'observe, moi, en gros, hein, LR, RN, Reconquête, enfin, à partir de LR, tout ça, ça représente quand même 45-46% des. On est d'accord, hein,
oui,
depuis
oui.
2-3 ans, c'est à peu près ça. Toute la gauche réunie. Je suis au maximum à 31, si je prends les quatre élections. Élections présidentielles, législatives...
C'est plutôt 33, mais bon...
Avec okay, l'extrême-gauche, ouais, peut-être, ouais, oui. Ouais. Bon, d'accord. D'accord. Ça fait quand même une sacrée différence, quand même. Hein.
Oui, mais au milieu, il y a un truc, qui est le bloc central d'Emmanuel Macron,
ouais,
qui
mais
avait
le bloc,
aspiré
le bloc
gauche...
Le allait quand même, au moins au plan économique et social, allait quand même plutôt dans un
vers
sens...
Vers la droite.
On va dire, plutôt de son
oui,
droit.
Oui, vers la droite.
Ouais. Donc, alors, je le mets pas avec la droite, parce que, bon, sur les aspects sociétaux, etc...
Mais tout est compliqué, Jean-Pierre, même le Rassemblement National, autant Reconquête et LR, et une bonne partie, et la majorité présidentielle, sur le plan économique, peuvent se retrouver pour être très... libéraux sur le plan économique, on va le dire comme ça. Autant le Rassemblement National lui-même, vous avez interrogé hier Jordan Bardella sur son programme économique, le Rassemblement National est très à droite, pour employer des termes classiques, sur le plan des valeurs, sur le plan sociétal, sur les questions d'immigration, d'insécurité, etc. Mais sur le plan économique, on ne sait plus trop où il habite.
Non,
parce qu'il y a des volets qui relèvent quand même de la droite, sur le plan économique, Et puis il y a beaucoup de volets qui relèvent de la protection plutôt classiquement de gauche. Donc c'est vraiment incompréhensible. Vous l'avez cuisiné là-dessus, Nicolas.
Pourquoi il est de gauche ?
Mais il y a des mesures de pouvoir d'achat avec cette idée. Cette idée incroyable que le pouvoir d'achat, c'est dans un texte de loi, quoi. Le pouvoir d'achat.
Ouais, alors ça, j'ai envie de dire, c'est
vous avez la hausse des salaires, vous avez le plafonnement des prix de l'électricité et du.
TVA 5,5.
Voilà, la TVA 5,5. Vous avez tout un tas de mesures. Si on ne savait pas qui les propose et qu'on nous mette 15 ou 20 ans en arrière, on dirait, regarde Gaël, ce programme, à ton avis, il vient de qui ? Sur un certain nombre de sujets économiques, on pourrait se dire, tiens, ça vient de la gauche.
Oui, non, mais c'est.
Et donc, il y a quelque chose qui rend la situation de notre pays, sur le plan politique, complètement bizarre et impossible.
Mais de ce point de vue-là, l'évolution du Rassemblement national reflète assez bien d'autres évolutions dans d'autres pays, des conservateurs, de la droite américaine, ou au fond qui devient économiquement antilibérale alors qu'elle était libérale, thatchérienne, tout en étant socialement conservatrice. Donc on a une sorte d'opposition et ça qui n'existait pas auparavant. Auparavant, la droite était conservatrice socialement, libérale économiquement. C'est vraiment Thatcher, Reagan, etc. Aujourd'hui, nous avons une droite, et c'est vrai en Angleterre, et c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai avec le Rassemblement National, qui est anti-libérale économiquement. Elle a des propositions proches de la CGT en France, mais très sociales, et c'est vrai aussi aux États-Unis et au UK, au Royaume-Uni, et elle est conservatrice socialement.
Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus.
C'est très net.
Trump est complètement libéral. La droite américaine
est très libérale, oui.
Non, à part qu'il y a beaucoup de mesures non libérales.
Mais les mesures protectionnistes, l'histoire de la droite américaine, c'est pas une droite libre-échangiste. Sur l'essentiel des deux siècles et demi d'histoire américaine, je suis désolé, mais le protectionnisme est majoritaire dans la droite américaine. Nixon était protectionniste, par exemple.
Oui, mais Reagan ne l'était pas.
Oui, mais si je prends les républicains, Eisenhower, et avant-guerre, etc. Ils étaient plutôt protectionnistes. Regarde l'entre-deux-guerres, Hoover, par exemple.
Mais
c'est la droite.
Une droite qui n'est un conservatif
sur
non
tout le
libéral.
Reste. Sur le plan fiscal réglementaire, lui, il déréglemente, le secteur de l'énergie. Il a déréglementé les banques. Prenez la principale autorité politique en Europe, c'est devenu Giorgia Meloni, qui a eu un succès aux élections européennes. La seule, dans les grands pays, coalition majoritaire qui a augmenté ses voix depuis 2022. Elle avait un discours un peu interventionniste dans tous les sens au moment de son élection en octobre 2022, et ce d'autant que c'est une coalition de trois partis. Et résultat, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a absolument pas remis en cause les réformes de Mario Draghi. Elle s'est contentée d'un accord avec la Tunisie sur l'immigration et deux, trois mesures sociétales.
Elle s'est même fait guider par Mario Draghi.
L'AFD en Allemagne, qui est extrême,
extrême droite,
se rattache plutôt à l'extrême droite traditionnelle. Mais sur le plan économique, ils sont assez libéraux.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout chez RN. Il y a effectivement les mesures que Gaël citait. On vous dit pas de qui elles viennent. Vous pensez que ce sont des mesures de gauche, mais vous avez finalement aussi des mesures qui sont vous décidez d'élargir la possibilité de faire des donations tous les 10 ans, 100 000 euros par enfant, c'est une mesure d'héritier.
Il y a moins de mesures familiales.
Moins de 20% des donations qui étaient le niveau de 100 000 euros.
C'est une partie de la droite qui est favorable à la petite entreprise. Ouais. Elle n'est pas favorable à la grande entreprise, encore moins à la grande banque. On a quand même et c'est là qu'on a une évolution. Et quand on dit elle est libérale, oui, elle est pour les artisans, pour les petites PME, pour les ETI, etc.
Mais par rapport à NFP qui, lui, est contre toutes les entreprises et va toutes les faire crever.
NFP, c'est particulier. NFP, il te remet l'outil de travail dans l'ISF. Même Mitterrand ne l'avait pas fait.
Bien sûr.
J'ai pas eu le temps avec Marine Tondelier de l'évoquer.
Marine Tondelier, les socialistes, tout le monde a voté ce truc-là.
Décrit là, c'est justement une situation politique inextricable, quelque chose de très complexe. Sur la droite, est-on de droite ou pas, quand on parle de Trump, moi je suis d'accord avec Jean-Pierre Petit. Ce que vous dites, c'est plutôt, Philippe, parce qu'il y a des mesures protectionnistes, mais globalement, on est sur un libéralisme assez assumé. Mais économiquement, aux États-Unis, il n'y a pas de grosses différences sur.
Il y a l'aile gauche du Parti démocrate.
Entre Biden et Trump, c'est une singularité en France qu'il y ait une telle amplitude en tout cas par rapport aux États-Unis, une telle amplitude de mesures économiques liées à la fiscalité notamment, entre la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement, et alors a fortiori entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est quelque chose qui est singulier chez nous. Mais en tout cas, pour en revenir à notre sujet, c'est-à-dire aux conséquences de ces élections, on va se retrouver, on était parti d'un scénario où on pouvait se diriger vers une majorité absolue au RN, et qui est un scénario qui s'éloigne, et qu'on va se retrouver dans une situation où on aura finalement pas de majorité trouvable. Et donc, c'est l'inconnu. Parce qu'on sait faire dans des démocraties parlementaires ce que j'appelle des pays normaux. Des pays où vous avez des conciliations, du consensus. Tous nos voisins font comme ça. Et donc, ça choque personne qu'il y ait des grandes coalitions qui se forment, parce qu'on est habitué à ça, et le système est fait pour ça. Et on va se retrouver, nous, dans une 5e République qui élit un monarque républicain. C'est ça, notre système. Ça a été fait pour le général de Gaulle. François Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 80, vous savez ce qu'il avait dit. Il avait dit, le costume n'était pas fait pour moi, mais finalement, je trouve qu'il me convient.
Oui, il avait écrit le coup d'État permanent.
Il avait écrit le coup d'État permanent, et il expliquait qu'il, évidemment, il supprimerait ce système. Il l'a jamais fait. Et donc, il y a un moment donné où peut-être on changera de système et on aura un système plus classique. Tant que ce ne sera pas fait, ça va être très compliqué de fonctionner en coalition dans un système qui est fait pour le général de Gaulle.
C'est-à-dire, un problème, c'est qu'un système où les coalitions se font avant l'élection rend plus difficile la formation de coalition après l'élection.
C'est vrai.
C'est vrai aussi. Voilà, c'est vrai. Là, il y a une vraie contradiction.
Philippe, vous évoquiez tout à l'heure, en début d'émission, quand on parlait de la TVA, l'histoire du grain à moudre. Est-ce que dans cette histoire de grain à moudre, on peut imaginer que dans quelques semaines, on aura abrogé la réforme des retraites et remis l'ISF? Vous croyez que c'est imaginable?
La réforme des retraites, c'est fort possible. C'est même, enfin, on verra. Comme je ne sais pas ce qui sortira des urnes, mais c'est fort possible. La remise de l'ISF, peut-être. C'est peut-être moins décisif.
La réforme des retraites. À gauche, même Ruffin
Ruffin.
Oui, non, mais même Ruffin, qui est plus à gauche, est prêt à bosser avec Macron si il y a l'ISF.
Moi, je crois. Non, mais.
Oui, vous voyez.
Votre question est une bonne question, Nicolas, vraiment. Mais... Parce que je crois, pour une coalition, il faut en donner à tout le monde. On va rentrer dans le catégoriel. C'est quel est votre électorat? Et qu'est-ce que je donne? Quels sont les goodies, les petits cadeaux que je fais à votre électorat? Pour l'électorat de gauche, il faut l'ISF. Il n'y aura pas.
Honnêtement, décisif pour l'électorat de gauche, d'abord pour les Français, il faut quand même se rappeler de pourquoi on en est là aujourd'hui. On en est là, exactement maintenant, à ce point précis, à cause de la réforme des retraites. Sur le plan politique, c'est la réforme des retraites qui explique la situation catastrophique de la majorité aux européennes, qui explique qu'Emmanuel Macron est un petit peu fondu un fusible et qu'il ait décidé cette dissolution et qui explique où nous en sommes aujourd'hui. Donc, si vous revenez sur la réforme des retraites, vous avez un point de bascule.
C'est pourquoi, moi, je pense que le centre macronien est capable de dire oui à l'ISF. Ouais. En revanche, la réforme des retraites, c'est grosso modo faire ses poucous, quoi.
Ils
ont besoin de la réforme des retraites.
C'est
la concession que la gauche doit faire au centre. Et après ça, vous l'avez cité, c'est la baisse des prix de l'énergie pour les Républicains et pas d'augmentation de l'IR ou une augmentation de l'impôt sur les revenus purement formelle. Voilà. Mais parce qu'eux, ils veulent surtout pas. Et les Républicains soutiendront aussi, on touche pas trop à la réforme des retraites maintenant, même s'ils l'ont pas voté. Enfin, mais on connaît la position compliquée des Républicains sur le sujet.
Je crois pas qu'il y aura une majorité gauche macroniste de 289 sièges.
Non, mais on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on s'amuse dans un, scénario politique fiction, mais on fait ça trop en amont, mais dans un scénario de politique fiction qui aujourd'hui n'est pas possible, pour le moment en tout cas, et donc la question de Nicolas, c'est quel est le plus petit dénominateur commun, en quelque sorte. Et moi, je vous dis, si on se projette dans un tel scénario, le plus petit dénominateur commun, c'est la réforme des retraites, avec surtout si vous ne touchez pas à la réforme Touraine. Moi, depuis le départ, quand on est en plateau
Touraine,
ici,
c'est la réforme
c'est
qui
les 43 annuités.
Allonge la durée des annuités
à 43 du moment, et vous avez vu comment Jordan Bardella a eu l'impression de se faire piéger par Gilles Boulot lors du précédent débat, qui lui a dit, mais alors, du coup, si on a commencé à travailler à 24 ans, à quel âge, ou à 23 ans, je ne sais plus quel âge, à quel âge part-on à la retraite? Il dit, à 67 ou à 66.
Parce qu'il y a 42 annuités.
Parce que et donc, mais alors, c'est plus 60 ans. Parce qu'en fait, on oublie, mais les Français, eux, ils n'oublient pas, que ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Ah, oui, c'est sûr, pas l'âge légal de départ à la retraite.
Cette interview a fait. Enfin, le lendemain, on entendait ah, il a encore changé, il veut la retraite à 66 ans. La confusion entre l'âge légal et l'âge à taux plein.
Mais même Bardella s'est laissé embrouiller sur cet échange-là. Il aurait dû dire aux journalistes écoutez, non, vous confondez la durée de cotisation et l'âge légal de départ.
Voilà. Et ça a été toute l'erreur de cette réforme.
Voilà.
On en avait parlé d'ailleurs.
Et c'est pour ça, qu'à partir du moment où vous avez quand même la réforme Touraine, même si on y touche d'un an, à la limite, je ne sais pas ce que réclamerait la gauche si dans une coalition, à partir du moment où vous avez quand même la réforme Touraine, de toute façon, l'âge de départ des gens à la retraite ne va pas beaucoup bouger.
Ben oui. Non, mais en fait, c'est quoi l'issue ? L'issue, c'est pas de majorité, voilà, et c'est dissolution en juillet 2025 ou démission du président de la République, point barre. Hein, voilà.
Bon, on va s'ennuyer. J'aimerais vous citer...
Il n'y a pas trop d'autres
c'est
issues.
C'est fort probable.
J'aimerais vous...
Voilà.
Ah oui.
Non, l'un ou l'autre. Hein.
J'aimerais vous citer...
Alors, avec l'idée qu'on peut peut-être évoquer, hein, qu'on évoquait tout à l'heure dans le couloir, c'est que si y a une nouvelle élection présidentielle, donc il y a démission en janvier, par exemple, que Édouard Philippe, Gabriel Attal ou je sais pas Laurent Berger gagnent, est-ce qu'ils ont le droit de dissoudre avant? Dans la foulée de l'élection présidentielle, parce qu'en général, dans la foulée de l'élection présidentielle, on a une majorité législative. Ça, c'est très important, parce qu'il y a deux interprétations de l'article 12.
Mais là, moi, je suis pas assez compétent sur la
constitution. Mais non, mais il y a deux écoles.
Des constitutionnalistes s'opposent sur le sujet.
Ah, ils s'opposent, d'accord.
Non, mais il n'y a pas de coutume. On l'a jamais vu.
Non, mais très probablement, le président de la République peut tenir un an avec une assemblée où il n'arrive pas à constituer une majorité. Donc probablement la question que nous nous posons risque de ne pas se poser même en cas de démission du président.
Compte tenu effectivement des
outils, il va essayer quand même de faire quelque chose.
Compte tenu des outils constitutionnels et notamment à l'article 74, on peut tenir un peu quoi.
Voilà. On peut tenir, voilà.
On peut tenir, oui.
J'aimerais vous citer quatre. C'est le Figaro qui a recensé des réactions de patrons de TPE PME. Ils ont fini par aller vers le Rassemblement National et ils disent, il était temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout sauf continuer avec les mêmes. On en a marre de la bobologie parisienne. Les grands groupes se gavent et moi je ne cesse de trimer. Il faut entendre.
Ah oui, mais c'est vrai.
Entendre.
C'est...
L'électorat du Rassemblement National est un électorat très présent chez nécessairement les patrons de mais chez les artisans petits commerçants et les patrons de petites boîtes voilà
là c'est TPE
je crois Nicolas qu'on efface et là encore je reviens sur ce thème on le retrouve en Angleterre on le retrouve surtout aux États-Unis de l'opposition entre un monde que j'appellerais plus bobo où il y a beaucoup d'intellectuels etc et un monde de travailleurs éventuellement de travailleurs peu diplômés
quand vous voyez certains résultats à Paris oui vous vous dites waouh.
Non, c'est pas. Et le monde du travail, et là, de ce point de vue-là, le petit entrepreneur va se trouver du côté du monde du travail, d'autant plus que c'est pas nécessairement quelqu'un de diplômé.
Sur l'électorat RN, quand même, vous avez tous vu les cartes de France, hein, si on laisse de côté les villes, les agglomérations,
les grandes,
c'est une carte bleu marine tous les sens du terme. Et si vous laissez de côté les plus de 65 ans chez qui le RN a beaucoup progressé mais est encore en retard, et les tout jeunes, et vous prenez les tranches d'âge actifs, le RN serait aujourd'hui, s'il n'y avait que des actifs qui votaient, le RN, il n'y a aucun doute, serait au pouvoir.
Et c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un qui racontait dans l'émission il y a deux jours une circo où la motivation de voter RN, c'est que l'hôpital public avait fermé ou qu'il est trop loin.
En même temps, Emmanuel Macron, ayant dissous la gauche et la droite à son élection en 2017, ayant ventilé façon puce la gauche classique, la droite classique. Le scénario que nous vivons aujourd'hui, il est un peu attendu. Les démocraties ont besoin d'alternance. Si la seule alternance possible d'un gouvernement du centre-droit, on va dire, c'est le Rassemblement National, parce que vous avez éteint la gauche, éteint la droite, même si la gauche se réveille aujourd'hui, c'est logique que l'alternance arrive et que cette alternance, elle soit le Rassemblement National. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais dans trois ans.
C'est quand même la déliquescence totale de la classe politique française, l'image de la classe politique française auprès des Français, à ce point qu'on en arrive à élire un président de la République de 39 ans, un premier ministre de 34-35 ans, et maintenant, un futur Premier ministre potentiel
de 28,
de 28 ans qui n'a jamais eu aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, qui n'est pas diplômé de l'enseignement supérieur, ça à la limite, je ne connais pas son histoire et je ne reproche pas. Mais enfin, on a un degré d'acceptation par rapport à lorsque j'étais jeune dans les années 70, dans les années 40, jamais ça aurait été possible.
Oui, mais on peut considérer que c'est un progrès d'avoir... En tout cas, il y avait une demande... Il y avait une demande des gens de changement, d'une forme de dégagisme. Et quand même, l'arrivée, il y avait eu Giscard quand même qui était jeune aussi en 74.
Ouais, 48 ans quand même. Hein.
Oui.
Il avait
47.
Il était pas premier ministre.
Il était 35 ans.
Vous me permettez de revenir sur cette question du travail, juste très rapidement. Parce que je la vois aux États-Unis, je la vois en France. Macron gagne en 2017 en s'adressant au monde du travail.
Ah ben c'était son contrat. Hein.
Voilà. Et ça, il se fait une majorité. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est quand vous avez pas laissé le monde du travail, et ça c'est un des problèmes probablement du nouveau Front Populaire, c'est pas le monde du travail qui représente d'abord, eh bien, immédiatement, vous avez un plafond de verre qui s'impose à vous et qui vous éloigne de la majorité. Regardez le problème de Biden aux États-Unis. C'est fini. Le monde du travail l'a quitté. C'est pas le monde. Il n'arrive pas à reconnecter avec le monde du travail. Ce qu'avait fait Obama. Mmh. Obama avait très bien réussi la connexion avec le monde du travail. Clinton aussi avait très bien réussi. Et vous apercevez qu'à ce moment-là, on a cette opposition. Et dès le moment où vous déconnectez notamment la gauche du monde du travail, ben vous avez un problème sur l'alternance. Et bien évidemment, ce monde du travail se reporte à ce moment-là vers l'autre bout de l'échiquier.
Je voudrais juste revenir sur qu'on a évoqué, l'absence de majorité. De toute façon, il n'y a pas d'unité du NFP. Ça n'existe pas. LFI est en train d'imploser. Et que dire des divergences absolument invraisemblables entre les socialistes, LFI et les autres. Donc de toute façon, je n'y crois pas à cette histoire parce que à l'intérieur même des coalitions, ça va péter. Et à l'intérieur de
ça va péter, ça s'est reformé.
S'est reformé pour gagner des circonscriptions. Voilà, pour gouverner.
C'est une alliance électorale, comme il y en a eu d'autres. Donc c'est une alliance électorale, c'est vrai, avec des divergences majeures, mais Jean-Pierre, en 81, en 97, les écarts étaient encore plus importants. On s'est beaucoup moqué d'eux, pour pas employer un terme plus trivial, sur le nom Nouveau Front Populaire. Mais on oublie que Blum, il était allié au Parti communiste qui prenait ses ordres directement de Staline. C'était pas Moscou, c'était encore pire. C'était l'URSS de Staline.
Ça passait par un gars qui s'appelait Eugène Fried.
On a l'habitude de gérer ces choses-là. Et le fait qu'il y ait tant de différences entre les membres de cette coalition peut éventuellement permettre qu'elle puisse se splitter et
oui, mais alors chez les macronistes aussi, chez Ensemble aussi, parce que c'est
oui aussi
c'est plusieurs formats.
Ah bah aussi, aussi.
Eh bien, le problème de Mitterrand,
voilà
la question du programme commun.
Merci Jean-Pierre Pelletier.
Merci Nicolas Dose de nous laisser la possibilité de s'exprimer.
La voix de Jacques Chirac, dis donc.
Demain, nous serons à Aix. On va prendre un peu de hauteur, Philippe.
Absolument.
On va essayer.
Absolument.
Il va être chaud. Pas seulement de la hauteur, mais aussi.
Un peu de soleil.
Ah, il fait plus de 30 degrés là. Bon, en tout cas, c'est ce contexte politique est venu bousculer un peu les rencontres économiques d'Aix, mais elles se tiennent bel et bien et on se retrouve demain dès la matinale de l'heure closée à 6h et à 9h avec mes invités depuis le Parc Jourdan. Merci à vous trois. Rendez-vous donc demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.